sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 20 juin 2001 de 18 à 21h, en différé jeudi 21 juin, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 250 francs. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 0085, par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Amis de la Reconquête, bonsoir.
Vive la Reconquête.
Oui, j'ai changé parce que...
C'est mieux, ça nous plaît
La Résistance, pour l'instant, on ne peut pas dire que ça ait donné des résultats très brillants, donc on change de programme. Maintenant, c'est la Reconquête. Autour de ce micro, ce soir, Madame Catherine Maigret, maire de Vitrolles. Bonsoir, en France, en Provence, et en France aussi, bien sûr. Bonsoir, Madame.
Bonsoir.
Bertine Maigret, qui n'est pas encore maire de quoi que ce soit.
Mais ça va
Quel
venir.
Quel âge a-t-elle ?
3 ans et 1 mois.
Alors, si vous la voyez... C'est une petite fille aux yeux noirs, Ochichornia, noire comme du charbon, avec une jolie robe jaune. Elle est ravissante, cette petite fille. Bonjour, mademoiselle Bertille.
Alors, on lui a dit de pas parler. Elle peut pas dire bonjour, on lui a défendu.
Ah oui, alors...
Et puis, elle a pas de micro.
Claude Timmerman, qui est beaucoup moins jolie. Bonsoir Claude,
non mais ça c'est pas de ma faute. Bah, de toute façon, vous m'avez très gentiment invité à une émission de radio, donc le fait que je
c'est pas
beau n'a aucune espèce
d'importance. Absolument. Non, j'ai pas dit que vous n'étiez pas beau, j'ai dit que vous étiez.
Dans votre micro.
J'ai dit que vous étiez moins joli que Bertille Maigret.
Ah, il a les yeux noirs aussi.
Voilà. Surtout avec mes lunettes.
Et il n'a pas 3 ans lui. Alors Claude Timmerman est un spécialiste de l'agriculture. Alors il est normalien, il est agrégé de l'université, il est enfin tout ce qu'on peut. On se demande, il a de la culture et de l'agriculture. Et vous êtes également président de...
Ah non, ça n'a rien à voir.
D'une association agricole.
Ça parce que je
ah oui, c'est ça. Vous n'êtes pas là, à ce titre-là.
Pas du tout. Ouais. Je m'occupe effectivement beaucoup de la Ligue française de protection du cheval, mais mes activités dans cette association n'ont absolument rien à voir avec les sujets qui m'occupent sur le plan agricole.
Voilà. Alors, avec vous, on va parler... On va échanger quelques vérités interdites sur l'agriculture. Je signale que ces vérités font l'objet d'un article de vous. D'ailleurs, ça tombe très bien dans le libre journal de dernier numéro, numéro 240 à paraître. Enfin, qui est paru ce matin. Et puis, Henri de Fersan. Qu'est-ce que vous voulez, Victoria ?
Je voudrais que vous me prêtiez
votre journal. Je
lire
le journal pendant
Merci.
Que je parle. C'est agréable à entendre. Et Henri de Fersan, qui est l'auteur d'un livre qu'il faut absolument lire, qui s'appelle « L'imposture antiraciste », et qui est une somme, une vraie somme, hein, je ne plaisante pas du tout. C'est un gros bouquin passionnant, bourré d'informations. Bourré d'informations. Et si on le veut, il faut se dépêcher, parce que le premier tirage est pratiquement épuisé, hein, mon petit Fersan.
Oui, oui.
Vous
oui.
êtes assez déplaisant, je trouve, hein.
Le premier tirage, oui, est effectivement à peu près épuisé. J'ai fait la comptabilité ce matin. Les 2/3 du tirage sont épuisés.
Quand j'ai trouvé ce gamin, il était dans la rue. C'était un saute-ruisseau. Il avait à peine des chaussures. Il ne savait rien faire. J'ai tout appris. Alors maintenant, il vous fait des bouquins de 400 pages, 350 pages, qui se vendent en 2 mois, vous comprenez. Non, c'est intolérable. Catherine Maigret, est-ce que vous allez en prison quand, alors?
Ben, je crois que c'est pas encore d'actualité et je pense pas qu'ils aillent jusqu'à me mettre en prison quand même. Ça me ferait beaucoup trop de publicité.
Oui. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'en première instance, vous aviez été condamné pour une affaire totalement, ébouriffant. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. Vous pouvez rappeler en quelques mots ce qui a déterminé la puissance publique à s'ébranler contre vous?
Tout simplement, nous avons voulu appliquer notre programme à la mairie de Vitrolles en Provence. Et tout le monde sait que notre programme et ce que les Vitrolais attendaient de notre élection comporter la préférence nationale. Alors, la préférence nationale, notamment, consistait à mettre en œuvre une allocation de primes de naissance pour les parents français ou européens vivant à Vitrolles.
C'était une idée qui avait déjà été...
Exactement, c'est ce que j'allais vous dire.
C'était M. Gobert qui avait fait ça.
Elle a déjà été exploitée par pas mal de maires avant nous, dont M. Chirac à Paris, M. Sarkozy à Neuilly, M. Desprez
à Courbevoie.
À Courbevoie, qui n'est plus maire actuellement, mais qui l'était à l'époque, notamment en 1985. Mm-hmm. D'ailleurs, je remercie Monsieur Desprez parce que c'est le seul témoin à s'être déplacé. Il est venu à la barre.
C'est lui qui avait dans son conseil municipal Monsieur Gobert.
Monsieur Gobert, président de la LICRA, qui était partie civile dans ce procès contre moi, et Hubert Fayard. N'oublions pas Hubert Fayard, qui aussi a été attaqué en tant que premier adjoint.
Voilà, lui, il est votre adjoint.
Oui. Oui. Et Monsieur Gobert, Monsieur Desprez a fait rire tout le tribunal, sauf le président et ses assesseurs, puisque il est venu nous raconter, ce vieux monsieur charmant et courageux, que monsieur Gobert a été conseiller municipal RPR en 1985 dans son conseil municipal et qu'il a voté cette prime de naissance. Alors le président lui dit « Mais comment savez-vous qu'il a voté ?» Et Charles Desprez lui répond « Mais monsieur le président, ça a été voté à l'unanimité. » 15 ans après, il est parti civil contre moi.
C'est incroyable. Quelle dérision. Alors donc, ça, vous avez été condamné en première instance, vous êtes allé en appel et vous étiez assez tranquille finalement, parce que vous pensiez qu'en appel, vous seriez, que le jugement, ce jugement imbécile et inique serait cassé, enfin non pas cassé, mais modifié.
C'est-à-dire que nous ne pensions jamais, en prenant ces dispositions de prime de naissance, vu qu'il y avait eu en plus des antécédents, nous ne pensions jamais que nous serions poursuivis au pénal et aussi sévèrement punis.
Mais alors au pénal, pourquoi ? Quel motif ?
Au motif de nous traîner dans la boue le plus possible et de nous empêcher d'appliquer toute politique. Et au motif que les personnes qui sont au pouvoir actuellement ne supportent pas mon élection.
Ça, c'est vrai.
Alors, comme on ne peut pas nous combattre dans les urnes, on nous combat par les tribunaux, tout simplement. Donc je suis la seule maire qui ait appliqué, en plus les autres l'ont distribué pendant une dizaine d'années, moi je n'ai même pas pu la donner vraiment, puisqu'on me l'a rendue, les gens me l'ont rendue sous pression.
Tellement on les avait terrorisés.
Oui. Alors je suis la seule maire à être
poursuivie. Il y a un couple, enfin une famille qui l'a reçue,
oui.
Je crois même que c'est vous qui l'aviez versée en attendant.
C'est moi qui l'ai donnée de ma poche, en attendant que les choses se mettent administrativement en place.
Et donc un couple, oui. Une famille qui l'a reçu et qui vous l'a rendu,
oui.
Cédante à la affectueuse pression de leurs amis, mais au terrorisme,
des socialo-communistes.
Ouais.
Et cette affaire d'ailleurs est très très douteuse. On se demande s'il n'y a pas eu des encouragements
un
peu pécuniers dans ce sens-là.
Il vaut mieux toucher 10 000 francs d'un côté que pas de la main gauche que 5 000 francs de la main droite. C'est bien.
Alors, en résumé, je suis la seule maire qui ait pris cette décision à être poursuivie au pénal. Et je suis la seule élue en France à être poursuivie pour avoir donné de l'argent. Parce que tous les élus actuellement et les hommes politiques corrompus sont poursuivis pour en avoir détourné et s'en être mis plein les poches.
Je crois qu'il y a une autre raison, c'est que, en fait, moi, j'ai l'impression que la seule vraie raison pour laquelle ils vous ont condamné, c'est parce que vous tenez les promesses électorales. Et ça, c'est pas une chose à faire. Parce que si on se met à avoir des gens qui tiennent leurs promesses électorales, ça fout tout le système en l'air.
Et c'est bien pour ça que les Vitrolais nous ont réélus, envers et contre tous, malgré...
Alors, annonçait battu.
Oui.
Toute la presse disait, il n'y a pas de question. J'ai encore les papiers, les commentaires à la radio.
C'est la
méthode jusqu'au Coué. Dernier moment.
L'éternelle méthode Coué en ce qui nous concerne toujours.
Et jusqu'au dernier moment. Oui. C'est-à-dire qu'au moment où les résultats arrivaient, on disait, oh là là, c'est très juste. Non, mais de toute façon, les Maigrets seront battus. Bon, voilà. Alors, comme ils ont raté leur coup, là, c'est vraiment des chacals, quoi. Quand ils ont raté leur coup par les urnes, ils attaquent par le...
Alors, Serge, je rappelle quand même...
Quel est le nom du président ? Parce que moi, j'aime bien qu'on donne les noms des magistrats. Vous les avez en tête, non ? Vous avez effacé ça ?
L'ami.
L'ami.
Oh, oui.
L'ami de la famille.
Oui. Monsieur l'ami porte bien son nom. Un ami qui me veut du bien.
Qui vous veut du bien. Oui.
C'est monsieur... le nom d'un humoriste. Pourtant, ça... il n'est pas drôle, celui-là.
Non plus, d'ailleurs.
L'autre non plus, d'ailleurs. Oui.
Alors, l'ami, il est à la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Président de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.
D'accord. Voilà.
Alors, je rappelle aussi quelque chose, parce que j'ai été condamnée en première instance, et là, je ne vous suis pas. Quand vous dites que j'espérais être relaxée, pas du tout. Parce que, souvenez-vous, pour mon procès du Berliner Zeitung, il s'est passé exactement la même chose, condamné en première instance et en appel, ça ne bouge pas d'un iota.
Ouais. Qu'est-ce que c'était l'affaire du Berliner Zeitung ?
Alors ça, on va en parler après. Je continue simplement parce que je pense que ça va quand même intéresser les auditeurs de savoir quelle est ma punition. Alors ma punition, c'est 500 000 francs. C'est-à-dire 50 millions d'anciens francs d'amende, de frais, de... Je compte pas les frais d'avocat, mais d'amende, d'insertion publicitaire et d'indemnité aux associations antiracistes.
Et Gobert avait dit, on les tuera, on les fera taire par le fric. Ben voilà, c'est fait.
Exactement.
Enfin, c'est fait, c'est pas fait, mais
ah non.
C'est en route, quoi. C'est, voilà.
En tout cas, ils font tout pour.
Et ça, c'est sur vos biens propres, vous êtes...
Oui, parce que, bien entendu, je suis poursuivie personnellement. Et croyez-moi, les ennemis y veillent. Donc il y a cette énorme punition. Et en appel, ça n'a pas bougé d'un chouïa. C'est la même chose. C'est-à-dire que je pense qu'ils ne sont même pas donné la peine d'ouvrir le dossier.
Oui. Donc 500 000 francs, 3 mois de prison avec sursis.
Ah oui, 3 mois de prison avec sursis et 2 ans d'inéligibilité.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette inéligibilité ? Parce que là, c'est quelque chose qu'on ne comprend jamais. Parce qu'on voit tout, sans arrêt prononcer des peines d'inéligibilité contre des voleurs, qui, eux, au lieu de donner du fric, comme vous le disiez, en prennent. Et puis, on les voit toujours élus. Il y a le seul qui a failli vraiment perdre son élection, c'est Le Pen, à la suite d'une condamnation pour inéligibilité. Et puis, ça ne s'est pas fait. Alors, ça correspond à quoi ? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes encore maire de Vitrolles ?
Non, je suis obligée de céder la place à mon premier adjoint.
C'est ça. Donc, ils ont quand même réussi une opération, là.
Attendez, je pars en cassation, quand même.
Oui, mais c'est pas suspensif, la casse.
Si. Et
ah, très
si.
Bien. Et après, donc, la cassation, ça va prendre quoi ? Un an ou deux ?
Un an. Ça va toujours très vite, en ce qui nous concerne.
Oui, bien sûr. Et après, donc, vous irez, en supposant que la cassation soit présidée par M. Lamy.
À la Cour européenne des droits de l'homme.
À la Cour européenne, oui. Bien, écoutez, alors donc, 500 000 francs d'amende, qu'est-ce qu'il y a ? 3 mois de prison avec sursis, inéligibilité, qu'est-ce qu'il y a ? On vous traîne pas en place de grève pour vous rouer vive ?
Non, j'ai pas encore eu le crâne rasé.
Non,
on
va peut-être vous raser, voilà.
je
pensais à ça.
Faut dire que mon arrivée en charrette, en robe de bure, ça leur a pas plu du tout.
Oui, c'était pas tellement fait pour arranger les choses. Enfin, normalement, ils doivent se prononcer en faisant abstraction de leurs sentiments personnels, si tant est qu'ils aient des sentiments.
Exactement.
Ouais.
Je suis d'accord avec vous.
Qu'est-ce que vous voulez dire, Victoria ?
J'allais tomber sous le coup de la loi, j'ai peur.
Non, ne tombez pas sous le coup de la loi.
Je sais que vous
n'aimez pas.
Attention,
ça.
Attention, Victoria, faites comme moi.
Vous arrivez aussi, la prochaine fois, vous arrivez au tribunal en robe de bure.
Mais l'affaire de Catherine me fait beaucoup penser à un sketch des Inconnus qui passait du début des années 90, où c'était une parodie de FR3 qui s'appelait Antenne 3 Marseille. Et en fait, à la fin du sketch, le seul qui allait en prison, c'était un adjoint au maire qui n'avait fait aucune fausse facture et qu'on l'accusait donc de discréditer la région parce qu'il n'avait fait aucune fausse facture.
Oui,
et vous savez de quelle ville il était adjoint au maire ? Marignane.
Ouais, enfin, on rigole, mais c'est quand même assez intolérable. Hein. C'est véritablement quelque chose qui je crois que là, maintenant, on atteint. Enfin, bon, il y a tellement longtemps qu'on a atteint le maximum de ce qu'on pouvait supporter. Moi, je suis toujours étonné que les gens soient aussi sereins, soient aussi passifs en face d'une situation qui devrait faire descendre le peuple dans la rue. Enfin, il y a...
Justement, je propose au peuple de descendre dans la rue.
Ah,
oui, parce que nous organisons une manifestation à Paris le 30 juin, départ à 15h, le rendez-vous est place du Palais Royal.
Mais 30 juin, place du Palais Royal.
Samedi 30 juin, place du Palais Royal à 15h. Et j'espère qu'on va venir nombreux et que les Français vont sortir de...
Alors, si on veut vous écrire, si on veut vous soutenir, vous aider, il y a aussi une adresse que je vais donner. Alors, il faut bien noter cette adresse parce que ce sont des initiales Et l'adresse est un tout petit peu compliquée. Alors, les initiales, c'est CSCM, C comme comité, S comme soutien, C comme Catherine, M comme Maigret. Mais il ne faut pas écrire comité de soutien à Catherine Maigret parce que la poste étant ce qu'elle est et les choses étant ce qu'elles sont, de bain, bien entendu. Merci, Henri de Fersan. Il vaut mieux, donc... Oui, ça vous plaît pas, ça non plus, Timmerman.
J'ai rien, bon. Donc, pas digne de vous.
Oui. À Vitrolles, j'ai un tiers de mon courrier qui est détourné.
Voilà. Donc, CSCM, parce que là, on peut espérer... je dis pas ce que j'ai envie de dire, parce qu'on aura encore des ennuis. Voilà, CSCM. Résidence Le Rocher. Tu es Rocher, et sur ce Rocher, je me tiens en église. Résidence Le Rocher, bâtiment Le Calcite. Ben, pourquoi ça vous fait rire? C'est une pierre, la calcite.
La calcite.
Ben oui, mais le bâtiment.
Ah oui, bien sûr.
Alors voilà, calcite. 13 127, Vitrolles en Provence. Et donc là, si vous avez quelque chose à envoyer, ce que vous voulez, vous pouvez envoyer un petit mot, une carte postale, ce qu'on appelait à la belle époque une lettre chargée. Une lettre chargée, c'est pas une lettre avec une bombe dedans.
Serge, il vaut mieux.
Et si c'est une lettre chargée, c'est à l'ordre du CSCM. C'est ça qu'il faut dire.
Ah oui, oui, oui.
Hein, voilà.
Exactement. Mais je rajoute un petit détail, c'est qu'il vaut peut-être mieux même éviter de mettre en Provence parce que vous savez qu'en Provence est devenu un symbole, ouais. C'est-à-dire que les facteurs reconnaissent les gens qui sont pour les Maigret parce qu'ils mettent en Provence. C'est terrible, c'est carrément le terrorisme. C'est la terreur, on vit dans un pays...
J'ai lu tout à l'heure, Solzhenitsyn va publier récemment, tout prochainement un livre, enfin il sort là ces jours-ci, en réponse aux accusations, alors écoutez bien, en réponse aux accusations, ouvrez les guillemets, de patriotisme et d'antisémitisme. C'est-à-dire, on l'accuse d'être patriote, on l'accuse d'être antisémite, ça se comprend, je comprends que les juifs n'aiment pas les gens, les antisémites, donc ils peuvent accuser. Mais accuser quelqu'un d'être patriote, je trouve ça quand même assez énorme. Eh bien, à Vitrolles, en Provence, si vous écrivez Vitrolles en Provence, vous êtes patriote. Et c'est drôle parce qu'on est arrivé à un système d'inversion, c'est-à-dire patriote, c'est quand même un mot qui a pris son sens au moment de la Révolution, et où être patriote, c'était quelque chose de bien, et maintenant, être patriote, c'est devenu... Le fruit de la révolution après 200 ans est quelque chose de mal, ce qui montre la dimension diabolique de la chose, quoi. C'est-à-dire le diable se mord ses propres plaies. Alors, je vous interrogeais tout à l'heure sur l'affaire du Berliner Zeitung. Qu'est-ce que c'est que cette histoire du Berliner Zeitung?
C'est encore une histoire de fou. Je venais de prendre mes fonctions à Vitrolles et un journaliste de la Stasi, je ne savais pas qu'il était de la Stasi, vient m'interviewer dans mon bureau.
La plupart des journalistes allemands sont quand même de la Stasi.
J'avais à l'époque une attachée de presse qui s'était très très mal renseignée et qui trouvait qu'il fallait faire un peu de promo à l'étranger, que c'était pas plus mal. Et je ne voulais plus voir aucun journaliste. Elle me dit, si, il faut voir celui-là, je vous assure, il est bien.
Il est très bien, d'accord.
Elle s'était même pas renseignée sur le journal.
C'est à ça qu'on les reconnaît.
Et puis bon, moi, en toute naïveté, je parle, je dis ce que j'ai sur le cœur, je défends mes Vitrolais, leur intérêt. Et il repart, bien madame, enchantée, au revoir. Le journal Berliner Zeitung ne diffuse qu'en Allemagne.
Ah oui, ça c'est clair, hein.
Une fois rentré dans son pays, il a vendu la cassette qu'il avait, donc il m'avait enregistré à mon insu, il a vendu la cassette au Monde. Vous voyez un peu le petit délateur ignoble. Et le Monde, évidemment, que vous connaissez aussi comme journal.
Très très bien.
Qui se délecte
bon
de la...
Très très bon.
De la délation, n'est-ce pas?
Comment c'est le mot? C'est pas neutre, c'est...
C'est un journal objectif.
Objectif, voilà.
c'est jeté sur cette cassette comme un os. Et, ils l'ont exploité. Ils ont réussi à me faire traîner devant les tribunaux. J'ai été lourdement condamnée pour propos racistes épouvantables puisque j'avais dit c'était la plupart des immigrés, et je parlais de ma ville, hein, faisaient des enfants qui s'en occupaient pas et qui touchaient les allocs.
C'est très très mal.
Quel horrible.
Ah oui, surtout
propos.
Que c'est pas vrai.
Alors, au départ, ils voulaient me faire condamner parce que j'avais dit, répondu à la question de ce monsieur qui me disait, est-ce que vous pensez qu'il y a des inégalités entre les races? Et je lui avais dit, monsieur, il y a forcément des différences entre les races, sinon nous aurions tous des têtes de casserole. Et ça n'a pas... Donc, au départ, ils voulaient me poursuivre pour
pourquoi
ça.
Pourquoi casserole?
On se ressemblerait tous, c'était une image.
Ah oui,
on aurait tous
joli,
des têtes de casserole. Et...
alors... Sauf qu'il y a les casseroles qui ont été oubliées sur le feu.
Ça va, c'est... Non, rajoutez alors... pas.
Ah, écoutez.
Bon, écoutez, j'ai assez payé comme ça, moi je quand même marre.
Ah non, mais il faut pas charrier comme ah, oui, mais... on les emmerde hein, quand même. Bon, là, ça va. Hein. Hein, les gangs petits de l'antiracisme, ça commence à bien.
Moi,
faire.
Je dis casserole et je voilà. ne précise
non,
plus
non,
rien.
Non,
parce que ma batterie de cuisine va me coûter très cher. Non.
Et alors, donc, cette histoire de casserole, ça vous en a accroché.
Alors, au début, ils voulaient me poursuivre sur ça, sur la différence des races, et puis ils se sont rendus compte que scientifiquement, c'était prouvé, que c'était pas possible. Donc, le tribunal s'est jugé incompétent. Alors, on a sorti cette phrase de son contexte. On a dit, elle a dit des choses horribles sur les immigrés en parlant des allocations familiales, ce que tout le monde pense, mais ce que personne
mais
ne dit.
De toute façon, c'est pas. Il n'y avait pas d'attaque contre une race parce que jusqu'à plus en plus informé, immigré, c'est pas une race.
Non.
C'est ni une religion, ni une race, ni une nationalité, immigré. C'est un État.
Il n'y a pas besoin de dire quoi que ce soit. Maintenant, ce sont des procès d'intention, c'est-à-dire qu'on vous poursuit sur ce que vous pensez et même pas sur ce que vous dites.
Parce que vous êtes censé penser, étant donné ce que vous êtes.
Exactement. Donc, que s'est-il passé? Ils ont fait un procès à la Papon, c'est-à-dire qu'ils ont loué des tentes parce qu'il y avait 300 parties civiles.
C'était la
guerre. Tous les jours, il y avait des types qui venaient pour déposer une plainte contre moi à la mairie de Vitrolles. Ça a monté à 300. Ils avaient baissé les consignations de 1000 francs à 100 francs pour que les gens puissent venir en masse. Mais bien sûr. C'est tout juste s'ils leur avaient pas loué d'écart.
C'est fou.
C'est hallucinant. Donc j'ai eu ce procès. 50 000 francs d'amende. 3 mois de prison avec sursis. Ah. Et 2 ans d'inéligibilité. C'est toujours
ça change
à peu
pas
près.
Beaucoup.
Non, mais là, les 50... Cette fois-ci, c'est devenu 500 000 francs.
La prochaine fois,
francs,
c'est 5 millions.
Non, mais... 3 mois de prison avec sursis.
Oui.
Ah, c'est amusant. Non, c'est pas amusant du tout parce que vous savez que en 93, une bande de sympathiques jeunes qui avaient violé collectivement une gamine de 13 ans pendant 2 mois n'ont eu que 2 mois de prison avec sursis.
Ah, ouais.
Et donc ça s'est passé à Gif-sur-Yvette dans l'Essonne et à Saint-Bonnet-le-Château dans la Loire, une bande de jeunes toujours aussi jeunes qui ont fait la même chose avec une fillette
une
de 12 ans d'une autre jeune aussi mais pas de la même jeunesse. Eux, ils ont fait 5 semaines de préventive et ils sont été libérés.
Mais on les a indemnisés pour ces semaines de préventive, non?
Oh, je suppose, oui.
Oui, parce que c'est dur. C'est dur quand même, 5 semaines de préventive. Sans compter qu'en prison, ils risquent de rencontrer des gens peu fréquentables et de prendre de mauvaises habitudes.
Hein. Oui, ils peuvent.
Non, ça arrive, des choses.
Donc cette farce s'est terminée, j'ai quand même une bonne nouvelle, Serge. En appel, j'ai repris exactement la même chose, bien entendu, c'est toujours comme ça. Et nous sommes allés en cassation et nous avons fait casser ce...
Ah, alléluia.
Oui. Bon, alors ça, c'est merveilleux. Et vous savez pourquoi? Parce que la Cour de cassation a dit, mais enfin, elle a donné une interview au Berliner et pas au Monde. Donc elle ne peut pas être poursuivie pour avoir donné...
Ah oui, très bien. Bon, écoutez.
Vous parliez de Solzhenitsyn tout à l'heure, Serge. Oui. Je voudrais dire, voilà ce qu'on écrivait sur Solzhenitsyn et après je vais vous dire le journal et l'année. Voilà ce qu'on disait sur Solzhenitsyn il y a quelques temps. Le personnage inquiète physiquement. Même bien lavé, bien rasé, il offre le côté douteux du Moujik des les anges avec ses sillons qui burinent la face et lui donne un aspect simiesque, celui des singes tristes qui regardent passer les promeneurs du dimanche.
J'imagine si on avait écrit ça sur quelqu'un d'autre, je dirais pas qui.
Alors, ça a été écrit le 24 janvier 1975 dans les colonnes de l'Unité, organe officiel du Parti Socialiste.
Enfin, personne ne le lisait, donc ça n'a strictement aucune importance.
Oui, mais beaucoup de gens le payaient.
Ah oui, ça, d'accord. Non, mais ils n'étaient pas obligés de le lire.
Ouais, déjà qu'ils devaient payer, alors ils n'allaient pas le lire en plus. Hein.
Vous n'avez pas l'air du tout abattu, Catherine.
Bon, vous savez, je m'y attendais tellement. De toute façon, je m'y étais préparée psychologiquement. Et donc, c'est vrai que c'est dur. C'est vrai que c'est dur. Oui. Mais...
Surtout que 500 000 francs, ça ne se trouve pas sur le pied d'un cheval.
Ça ne se trouve pas sur le pied d'un cheval. Et j'espère bien qu'on va m'aider parce que je ne sais pas comment je vais faire.
Ce qui n'était pas à mon avis où vous êtes. Bertille va casser sa tirelire. Bertille, vous allez casser votre petit cochon rose pour donner des sous à maman.
Ah, vous savez qu'à l'époque, j'étais enceinte de Bertille quand on a voté cette délibération au conseil municipal. J'ai même été accusée d'avoir, par certains journalistes, d'avoir pris cette délibération uniquement pour me payer 5000 francs de ma grossesse.
Ah ben oui, j'allais vous demander au fait.
Oui.
C'est pour ça, donc vous êtes... Bertille est l'enfant du péché, alors. l'enfant du crime, même on pourrait dire, puisque vous êtes au pénal avec
ça. Tu coûtes cher, ma chérie,
ben
tu
oui.
sais.
Bon, bon, attendez, à mon avis, elle va vous coûter encore plus cher que ça.
Vous voulez que je vous dise quelque chose de consolant, Catherine? L'Olympique de Marseille, c'est 240 millions qu'ils doivent trouver avant ce soir.
Oui, mais eux, ils ont Bernard Tapie, donc il n'y a aucun problème, ils vont les trouver.
Rendez les sous, comme dirait Montaldo.
Ça ne pose pas
bien.
De problème.
Ben écoutez, on est content de vous voir. Vous êtes, je l'ai dit, mais je le dis au micro, vous êtes resplendissante. Vous êtes en pleine forme, bronzée et tout. On voit que vous n'êtes pas allé en prison, en tout cas. Parce que c'est pas comme ça que ça s'attrape. C'est à Vitrolles qui fait ce temps-là?
C'est à Vitrolles, oui.
Ah ben voilà. Alors allez habiter
Vitrolles. Mais c'est aussi à Paris, je vous signale qu'il fait très beau à Paris.
C'est pas moi, je passe mon temps dans mon bureau, je ne vois pas.
Ah oui.
Merci de vous être... Non, il y a des questions. Ben,
il
n'y
a pas de questions, il y a des messages, de sympathie. Mais un auditeur qui n'a pas été, enfin, qui a dû être dérangé, nous dit, pouvez-vous rappeler pourquoi Catherine Maigret a été condamnée? On n'a pas bien entendu.
Ah ben on peut recommencer l'émission, mais ça va finir par faire
rengaine. Écoutez, demain matin, à 7h30...
Pour avoir attribué une prime de naissance aux habitants de Vitrolles, français... Enfin, de nationalité française ou appartenant à l'Union européenne.
Communautaire.
Je peux vous quitter sur un gag?
Oui, faites donc ça.
Pendant le procès, donc le verdict d'appel au tribunal, il y avait pas mal de monde, notamment des gens qui étaient là pour d'autres procès. Et comme évidemment il y avait des militants MNR qui ont crié oh, c'est scandaleux, donc les policiers avaient ordre de leur sauter dessus et de tout de suite leur passer les menottes à celui qui bougeait avec évidemment poursuite pour menace, outrage à magistrat. Eh bien, ils ont trouvé le moyen de menotter un type qui n'était pas militant, qui était là pour un autre procès et qui était scandalisé. Il est parti menotté.
Il a dû adhérer en sortant.
J'espère qu'il va adhérer en tout cas.
Voilà.
Alors, un auditeur nous dit, il paraît que Delanoé est poursuivi pour discrimination raciale pour insertion dans Paris Boom Boom d'une annonce d'emploi réservée aux Français et aux ressortissants européens.
C'est pas Paris c'est Boom Boom, cocasse, c'est Paris Prout Prout.
Oh,
hein,
oh,
c'est quoi vous dites?
Mais non.
Qu'est-ce qu'il a fait? Il a un ressortissant quoi?
Il a fait une annonce d'emploi réservée aux Français ou ressortissants européens.
Ah,
et il a des ennuis.
Ah, c'est complètement gay comme histoire.
Vous me fatiguez. N'en rajoutez pas.
Quoi d'autre?
J'ai entendu aujourd'hui même
boum, de toute façon. C'est pas une révélation quand même. Hein. C'est pas moi qui ai révélé aux populations stupéfaites que le maire de Paris est homosexuel. Il n'a pas arrêté de le dire. Alors maintenant, on le sait, bah, après tout. C'est amusant, je trouve.
Vous faites des plaisanteries de garçons de bain.
Ah, voilà. Oui, bien sûr. Même de garçons de sauna, on pourrait dire.
J'ai entendu aujourd'hui même sur BFM que la Cour de Cassation a rendu son arrêt invalidant l'arrêt de la cour d'appel.
Oui, pour,
pour l'affaire du Berliner. 500 000 francs, n'est-ce pas la même sanction pour Mme Beljanski?
Oui, c'est pas tout à fait la même affaire.
Ils avaient les moyens de se le payer.
Oui. Non,
mais
je comprends pas.
Non, même pas. Ah, bah oui, parce qu'ils ont. Oui, effectivement.
Ah non, ça, vraiment, Mme Beljanski, je veux dire qu'elle n'est pas.
Ils ont fini complètement ruinés, c'est ça?
Ah, totalement, oui. On lui a tout pris. Oui.
Toutes les institutions, y compris les masses médias, sont noyautées par les gauchistes. Pour un coco, tout ce qui n'est pas coco est facho. Par coco, il faut entendre aussi bien stalinien que maoïste, trotskiste, libertaire, anarchiste.
Chirac
et maintenant,
coco.
Même la gauche simple et la droite gauche. Voilà. Hier, sur Télétexte, j'ai lu que Mme Maigret aussi avait gagné en cassation, donc ils sont très contents de...
Oui, alors maintenant, les gens pensent que j'ai gagné, mais
ils pensent que ça s'est fait à toute
personne
vitesse.
Personne n'y comprend plus rien.
Mais
on sait
quand
plus ce que j'ai perdu, on sait plus ce que j'ai gagné.
On se dit, c'est pas la peine de pleurer sur son sort, puisqu'elle a gagné.
Oui. Voilà. Ils l'ont fait exprès, à mon avis.
C'est le procès à 50 000 francs, Catherine a gagné en cassation.
J'aurais préféré gagner l'autre.
Le procès à 500 000 francs, pour l'instant, c'est pas encore fait. Il faut y aller en casse.
Vous avez été réélu au deuxième tour. Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots ce qui s'est passé après cette deuxième élection?
Ça doit être tout à fait classique. Vous avez occupé vous êtes retourné dans votre bureau de maire.
Oui, ce qui se passe en fait, c'est qu'on essaye de voler les élections une fois de plus aux Vitrolais, les pauvres Vitrolais qui vraiment craquent complètement, et en essayant de leur
Mais alors Fayard va être
C'est pas Fayard, c'est Bovéro maintenant.
C'est Bovéro.
Ouais. Non, mais on essaye, les Vitrolais se choisissent un maire.
À la place de Bovéro, je suis entré mes abattis.
Et on ne veut pas qu'ils se choisissent ce maire-là, donc
mais
on essaye.
Vous connaissez la phrase de Bertolt Brecht, qui était un grand admirateur des crimes de Staline devant l'Éternel, qui a dit quand le peuple vote mal, il faut dissoudre le peuple.
Bah, écoutez, c'est comme les Danois à propos de Maastricht. Mmh. C'est comme les Irlandais à propos de Nice. Les Irlandais ont dit on n'en veut pas. Et on nous a immédiatement expliqué que ça n'avait absolument aucune importance. Parce que de toute façon, on allait faire comme si ils avaient voulu. Et puis on va les faire revoter jusqu'au moment où ils décideront à voter pour. Donc,
c'est exactement voilà. Ce qu'ils sont en train de faire.
En fait, maintenant, il faut mettre trois réponses au référendum. Oui. Oui, et ah, il t'appelait plus, oui.
Oui, donc, trouvez-vous qu'il y a pas assez d'immigrés en France, pas du tout assez d'immigrés, vraiment pas assez d'immigrés en France? Répondez.
Non, attendez, moi j'en ai un autre. Trouvez-vous qu'il y a assez de maigrés, pas assez de maigrés, trop de maigrés en France?
C'est joli.
À qui profite l'argent réclamé aux inculpés?
Ah ben, au fisc, au trésor public, là.
Et puis à SOS Racisme, que nous payons de nos deniers de contribuables, je vous signale, et l'ICRA et tout ce qui s'ensuit.
Ah oui.
Et qui nous coûte une fortune, contre notre gré.
Voilà, merci.
À l'insu de notre plein gré, on pourrait même dire.
Oui. Merci à Serge de Becquet d'avoir invité Madame Maigret, et grand message de soutien et de sympathie à Catherine Maigret de la part d'un candidat MNR aux dernières cantonales.
Voilà. Merci. Alors, CSCM, résidence Le Rocher, bâtiment Le Calcite ou La Calcite, je pense qu'on demandera aux spécialistes de la question.
Au départ, La Calcite est féminin, ouais. Mais si c'est donné à un immeuble, on peut le ménestiliser. Vous savez, de nos jours, les ministres, les maires,
bah voilà. Les maires, on ne sait plus. Le maire, la maire. La maire.
C'est le cas à Paris, on ne sait plus.
13 127 Vitrolles. Et le en Provence, vous le mettez dans votre cœur, vous le gardez. C'est pas la peine de le mettre sur l'enveloppe parce que si vous tombez sur un facteur là. Il vous fout la lettre directement à la poubelle. Hein.
Et puis je donne rendez-vous samedi.
Alors samedi 30 au Palais Royal, à quelle heure?
À 15h.
À 15h.
Et je souhaite que vous veniez nombreux pour nous soutenir.
Samedi 23 là?
Non, le 30.
Le 23, je suis complètement sérieux. Samedi 30 à 15h au Palais Royal. Vous pourrez profiter pour prendre le Palais Royal et mettre un roi. D'ailleurs. Enfin, c'est naturellement au mouvement national républicain, c'est difficile de leur demander ça.
Voilà la...
Personne n'est parfait.
La bonne espèce.
Pied de l'âne.
On n'arrive pas à se séparer de Bertie, qui est tellement mignonne que Victoria est en train de pouponner. Alors vous pensez comme c'est commode dans le studio. Voilà. Au revoir Bertie. Cette deuxième partie d'émission sera consacrée à un thème qu'on traite assez peu souvent, dans cette émission en tout cas, et qui est le thème de l'agriculture. Mais vu sous un angle un peu inhabituel, parce qu'il y a une vieille tradition en France de... silence bénévolant face à l'agriculture, enfin face aux questions de l'agriculture, et on a un peu tendance à toujours répéter les mêmes choses et tenir le même discours, donc de oh, les paysans sont des gens sympathiques, ils sont des gens bien, tout ce qui n'est pas totalement faux, mais il y a autre chose qu'on pourrait dire. Et Claude Timmerman, qui est un spécialiste de ces questions et qui publie de temps en temps des articles dans le Libre Journal, a accepté de venir de sa lointaine province bretonne. C'est ça, vous
Normande. Je suis dans le Cotentin.
J'étais sûr.
Ça n'est pas loin de la Bretagne.
Pour
j'aime
moi,
beaucoup
c'est...
les Bretons, mais bon, il se trouve que je suis de l'autre côté du Couesnon.
Ah ben moi j'ai un pied sur chaque rive quand je suis au Mont-Saint-Michel, donc voilà. Alors donc de la Normandie, de sa lointaine province normande, pour nous éclairer sur ces questions. On en a parlé beaucoup hein, ces temps-ci entre les affaires de pollution, les affaires de vaches folles, les affaires de produits de en ce moment on parle beaucoup des faux produits biologiques. Donc on va évoquer ces questions-là. La première question, la première chose que vous dites, Claude Timmermans, c'est un peu de la provocation, semble-t-il. Vous dites, la terre est confisquée par les agriculteurs.
En fait,
qu'est-ce que vous voulez dire par là, précisément ?
Soyons clairs, la terre n'est pas confisquée par les agriculteurs. À l'heure actuelle, la terre de France est confisquée par un système législatif à l'unique profit potentiel, je dis bien potentiel parce qu'il n'est pas réel, des agriculteurs. Il est pratiquement aujourd'hui impossible, dans une campagne, d'acquérir un terrain sans que vous ayez automatiquement une préemption des SAFER.
Vous pouvez dire, si vous n'êtes pas agriculteur, si vous voulez acheter un terrain, par exemple, vous avez une maison à la campagne, il y a un champ à côté qui vous paraîtrait intéressant parce que vous voudriez y faire, je ne sais pas quoi, moi, un terrain de foot pour vos enfants ou peu
absolument,
importe quoi.
Absolument.
Donc, si vous voulez l'acheter, vous allez voir le propriétaire de ce champ.
Vous pouvez vous mettre d'accord avec le propriétaire du champ qui va être tout à fait d'accord pour vous le céder. Il suffit qu'il y ait un agriculteur dans le secteur qui décide que ce terrain l'intéresse. Et il lui sera automatiquement attribué. À tel point qu'il y a des gens un petit peu plus astucieux que les autres, c'est vrai, qui ont mis au point un système, que j'ai vu d'ailleurs dans le secteur où je suis, où maintenant on découpe avec l'accord du propriétaire. Ça coûte bien entendu un peu plus cher parce qu'au départ, il faut faire venir un géomètre et le reste. Et c'est comme ça que j'ai vu des terrains de 2 hectares où il y avait parfaite connivence entre le propriétaire agriculteur qui acceptait de le céder et le propriétaire qui voulait l'acheter. On a découpé le terrain en 4 parcelles de 5000 m² qui ont été vendues en 4 ans. Un morceau par an, comme ça c'est trop petit pour que la SAFER préempte. Et
alors qu'est-ce que c'est la SAFER? C'est la société. Qu'est-ce que ça veut dire?
Vous m'excuserez, mais alors je n'ai plus le nom du sigle en tête. C'est un système qui a été édicté qui permet de récupérer les terres et de les revendre aux agriculteurs.
Mais c'est une institution, c'est un groupe, c'est quoi? Quand on dit les SAFER,
oui,
il y a des gens qui sont...
c'est régional.
Président de SAFER, vice-président de SAFER.
Absolument.
Alors ils sont désignés comment?
C'est lié au système des chambres d'agriculture, comme toujours ce qu'on trouve partout. C'est-à-dire que vous avez une débuleuse de gens qui sont élus à travers un certain nombre de collèges et qui se retrouvent à la tête d'un certain nombre d'institutions. C'est plus ou moins les mêmes que vous retrouvez à la tête des caisses de crédit agricole, à la tête des chambres d'agriculture, éventuellement d'ailleurs jusqu'à une époque récente. Maintenant c'est en train de changer parce que les représentations dans les départements et dans les cantons ont beaucoup changé, mais jusqu'il y a peu de temps, le monde agricole régnait en maître dans le monde politique local. Étant donné qu'aujourd'hui, le monde agricole n'est plus une force électorale, nous ne sommes plus à l'époque de l'après-guerre où il y avait 25, 30, voire 40% de paysans par endroit. Aujourd'hui, le monde agricole, c'est 3,5% de la population, sur lequel vous avez à peine un tiers, ce qui représente donc moins de 1%, qui sont des gens qui pratiquent l'agriculture intensive, qui pratiquent l'élevage hors sol, qui sont ces fameux premiers pollueurs de France dont parlait François Mitterrand, qui sont tous ceux que l'on retrouve à la FNSEA, et
ça,
dont Monsieur Le Métayer, aujourd'hui, est le porte-parole.
Ça, c'est les grossiums, c'est des gens qui ont des fermes géantes, qui font
pas
des centaines d'hectares, non ?
C'est pas nécessairement cela, parce qu'il faut savoir que vous avez, à l'heure actuelle, énormément d'agriculteurs qui sont des esclaves, smigards, je pèse mes mots, du crédit agricole. Des gens qui n'ont, comme on dit, même pas une vache à eux. Le crédit agricole possède la propriété, possède le matériel, construit les élevages hors sol voulus, négocie les animaux dans un sens comme dans l'autre, s'arrange avec les fabricants d'aliments du bétail auprès duquel ils négocient les contrats. Et
c'est les gens du Crédit Agricole qui font ça. Et le fermier, lui, il exécute.
Et le fermier exécute.
En fait, son exploitation, c'est une sorte de sauf-cos capitaliste.
Absolument, absolument.
Donc ça veut dire que le fermier, lui, il est sur sa terre, et le Crédit Agricole local lui dit, bon, à partir de l'année prochaine, vous allez faire du poussin. Vous
Absolument.
Allez acheter des poussins à tel, enfin vous
Absolument.
Allez faire du poulet, vous allez acheter des voilà. poussins à tel vendeur de poussins, vous allez acheter la nourriture à tel vendeur de nourriture, vous allez faire grossir les poussins et vous allez vendre les poulets à tel grossiste qui va les vendre au supermarché.
Alors c'est presque une caricature ce que vous dites, c'est ça sauf que c'est fait à l'envers. On va lui dire gentiment, si vous faites pas ça, vous aurez pas les crédits nécessaires
c'est
à faire autre chose.
Ouais.
On lui dit pas, mais le résultat est le même.
Hein. Oui, bah, bien sûr.
Le résultat est le même.
Bien sûr. Alors ça, c'est une chose. Donc, d'abord, la liberté d'accès à la propriété agricole n'existe plus.
J'ajouterais que, de toute façon, l'idée de propriété agricole, depuis le remembrement, n'existe plus. Car il faut savoir aujourd'hui que le remembrement est susceptible d'être refait tous les 30 ans. Ça veut donc dire que si vous, Serge, vous avez une propriété avec quelques hectares, et que vous avez, à vous, en propre, un terrain au bout de votre propriété, mais qui se trouve enclavé dans une grosse propriété d'à côté qui l'arrangeait bien. Eh bien, dans 30 ans, comme ça arrange ce monsieur et qu'il a les pouvoirs voulus, via le remembrement automatique, on va vous expliquer que ce bout de terrain, il rentre dans sa propriété et on va vous en donner un autre.
Dans 30 ans, j'aurai 85 ans, je pourrai encore tirer un coup de fusil. Hein.
Non, mais alors là, nous rentrons justement dans un problème d'autorisation de chasse sur lequel je ne m'étendrai pas, c'est un autre discours. Voilà. C'est pas le problème. Mais il faut donc savoir que cette idée de propriété terrienne immuable à travers le remembrement est de toute façon aujourd'hui complètement obsolète en France.
Là, je sors un peu de votre spécialité pour vous poser une question, pas agricole, si j'ose dire, mais comment les Français, comment les paysans de France ont-ils pu accepter ça? Parce que ça, c'est invraisemblable. Quand on sait quel attachement les paysans avaient à leur terre, à la terre que leur père avait cultivée, que leur grand-père, la terre, le lopin de terre, et qu'ils soient arrivés à se laisser embarquer dans un système où on leur dit, écoutez, vous aviez ce qu'on appelait le champ du père Mathieu, et puis on va
Absolument.
Vous prend le champ du père Mathieu, on va vous donner à la place le champ de la Syrie, et puis le type qui avait le champ de la Syrie, on va lui donner le champ du potier, et puis voilà.
Mais
comment ils sont arrivés à accepter
mais
ça?
Mais ne croyez pas que ça se passe si bien que ça. Vous avez des tas de communes en France, mais bien entendu, les radios et les journaux locaux inféodés à tout ce système n'en parlent pas. Vous avez ce qu'on pourrait appeler, au sens du Moyen-Âge, des jacqueries contre le remembrement et contre tout cela. Ça existe.
Alors, il y a une conséquence du remembrement pardon, à laquelle on ne songe pas quand on ne met pas le nez dedans, si j'ose dire, c'est la mécanisation. Parce que avant, quand les terres étaient morcelées, on avait sa paire de bœufs ou sa paire de chevaux, on pouvait aller ici et là pour faire un petit coup de labour. Tandis que maintenant, il y a des terres qui sont immenses, enfin, d'un seul tenant. Donc, alors, à ce moment-là, on a
en fait,
tracteur,
s'est passé dans l'autre sens. Cette révolution agricole qu'on vit est venue de la mécanisation. Et c'est cette mécanisation qui a, si j'ose dire, incité les gens à accepter le remembrement. Parce qu'effectivement, vous ne tournez pas dans une pièce de
deux hectares. Une fois que le gars avait un tracteur, il s'est dit,
voilà,
ce serait mieux si j'avais un champ plus grand.
Absolument.
Et donc, ça, c'est l'application du système du poivre rouge. Vous connaissez le système du poivre rouge de M. Dzerzhinsky. Dzerzhinsky, qui était le fondateur du KGB, disait, j'ai raconté ça 100 fois, comme posait la question au candidat du KGB, comment faites-vous pour faire manger du poivre rouge à un chat? Alors, il y avait un gars qui disait, c'est très simple, on lui met une boule de poivre rouge de force dans la gorge, alors lui, on le mettait aux interrogatoires musclés. Il y avait un type qui disait, on fait un texte de loi, on fait un arrêt par lequel les chats, à partir de maintenant, seront obligés de se nourrir de poivre rouge. Alors lui, on le mettait au service juridique du KGB. Il y avait le type qui disait, on met ça dans une boulette de pain et puis on lui fait manger, puis puis le temps qu'il découvre qu'il y a du poivre rouge dans la boulette de pain, ben, il a avalé le poivre rouge. Alors lui, on le mettait aux médias. Et puis, il y avait le gars qui prenait la direction d'un service, c'était celui qui trouvait la bonne réponse. Et la bonne réponse, c'était tout simplement, il faut tartiner le derrière du chat de poivre rouge, comme ça, il est obligé, ça le pique, il se lèche, et en se léchant, il mange du poivre. Et donc, là, c'est exactement la même technique. Comment obliger les paysans à faire une chose qu'ils n'auraient jamais voulu faire avant, c'est-à-dire d'échanger des terres pour des terres, et modifier l'héritage traditionnel familial? Eh ben, on leur a vendu des machines trop grosses, pour le petit lopin de terre qu'ils avaient. Et après, on leur a dit, vous voyez, le seul moyen de rentabiliser ces machines que vous êtes content d'avoir, parce que ça vous rend plus riche que votre voisin, en apparence, et puis ça vous fait ressembler aux publicités américaines, où on voit le type avec sa casquette, devant sa cuisine, et sa belle famille, etc. Eh bien, c'est d'accepter le remembrement. Et voilà.
En fait, ça s'est passé comme ça, d'une part, et d'autre part, le deuxième problème qui s'est produit, c'est que la mécanisation a permis la suppression de tous les commis de ferme, de tous les employés en grande quantité, qui étaient des gens qui se sont retrouvés à un moment donné, faire supporter à la propriété foncière, à l'exploitation, des charges sociales considérables. Et il est certain que, si vous voulez, j'ai connu des fermiers qui m'ont expliqué, quand on avait des chevaux, un charretier, un conducteur, pas feignant, labourait 4 hectares par semaine. Aujourd'hui, avec un tracteur de moyenne taille, on parle de choses encore très raisonnables, on ne parle pas de ces 150 chevaux monstrueux, on parle de choses de moyenne taille. Aujourd'hui, un homme tout seul laboure 7 hectares.
Oui, mais comme en même temps, on a dit aux gens maintenant, il faut arrêter de labourer, il faut faire des friches, je ne vois pas tellement l'avantage d'avoir des engins qui permettent de faire deux fois plus quand on a besoin de deux fois moins.
Non, mais qu'on ait besoin ou qu'on n'ait pas besoin, c'est venu après quand précisément on s'est rendu compte que il fallait trouver, sous une forme ou sous une autre, et on ne l'a toujours pas trouvé, a priori, ou du moins les hommes politiques le disent, mais ils ne l'ont toujours pas fait, le problème actuel de l'agriculture, c'est d'abord et avant tout d'arriver durablement et sainement à limiter la production. Oui. Et ça, c'est une chose extraordinaire en France. N'importe qui, demain matin, a des soucis par rapport au marché lié à son activité. Nous avons connu en Normandie, hélas, les problèmes récents que peut avoir une maison comme Moulinex, une maison comme Valeo. Vous connaissez tous les problèmes de Marks & Spencer ou autres. Dès qu'on est dans le tertiaire ou dès qu'on est dans l'industrie, quelqu'un n'a plus de marché, la maison ferme, les gens sont sur le trottoir, c'est terminé. Quand il s'agit d'un agriculteur, on augmente les primes, on sort des aides, et sa production, dont personne ne veut parce qu'elle ne sert à rien et qu'elle ne présente pas de marché, de gré ou de force, on l'achète, ce qui permet au Crédit Agricole et à un certain nombre de lobbies de faire tourner artificiellement cette structure dans laquelle, malheureusement, le paysan n'est pas du tout sauvé dans son activité, mais est de plus en plus inféodé au système.
Ce qui est extraordinaire, en fait, il n'en profite pas. L'exemple que vous prenez est tout à fait, le parallèle que vous faites est tout à fait révélateur, parce que on accepte tous les jours, on parle tous les jours d'excédents agricoles. Hein.
Absolument.
On nous dit les réserves de l'Union européenne sont trop petites pour recevoir les excédents de beurre, les excédents de lait, les excédents de ceci, les excédents de cela. Maintenant, imaginez qu'on nous dise, pour aider Marks & Spencer a fonctionné, on va tout simplement tous les jours envoyer des fonctionnaires de Bruxelles qui vont acheter dans 1000 costumes 3 pièces par jour dans les magasins, et puis on va les stocker à Bruxelles dans des containers. Il y aura 1000 costumes, puis de temps en temps on vendra les costumes aux Polonais qui les revendront d'ailleurs sur les marchés français, bon, comme ça se passe avec le beurre exactement. Mais si on disait ça, les gens diraient mais vous êtes complètement fou.
Absolument.
Il suffit de dire à Marks & Spencer qu'il arrête de vendre des costumes 3 pièces puisque personne n'en veut.
Il faut quand même savoir à l'heure actuelle que le budget global de l'agriculture de la communauté, donc ce budget qui est réparti en aides, en primes, etc., correspond à 47% du budget de la communauté européenne. Et pratiquement la moitié.
Alors,
budget sur lequel personne n'a droit de regard.
Quel est le vous nous disiez qu'en France, il y a 3% d'agriculteurs.
Un peu plus de 3% à l'heure actuelle.
Et en Europe?
Bien, en France, nous sommes encore dans les pays dits industrialisés. Je ne parle pas de pays qui ont encore un niveau d'industrialisation ou d'équipement moindre, comme par exemple peut encore l'être la Grèce ou peut l'être le Portugal, encore que le Portugal est en train d'énormément changer. Mais par rapport, si vous voulez, à un pays comme l'Allemagne ou comme l'Angleterre, nous avons encore pratiquement, si j'ose dire, par rapport à leurs normes telles qu'elles sont transcrites à Bruxelles, deux fois trop de paysans. L'objectif de Jacques Delors était d'arriver à 2% de paysans.
Voilà, donc si en Europe il y a 2% de paysans, ça veut dire que d'agriculteurs, parce que dans ce cas-là, moi je trouve que le mot paysan,
ah oui, non, non,
pas.
Parce que paysan, c'est plus du tout ça.
Voilà, d'agriculteurs, 2% d'agriculteurs consomment, combien vous nous dites, 45% du budget.
Attention, les 47%, c'est pour l'ensemble de l'Union européenne. C'est mais en moyenne, on doit arriver. La répartition n'est pas la même partout. Je sais par exemple qu'en Grande-Bretagne ou qu'en Allemagne, des voix de plus en plus fortes se font sentir au Parlement européen et dans les services du Conseil des ministres à Bruxelles pour expliquer qu'ils en ont un petit peu marre de voir les sommes colossales qui partent dans l'escarcelle des subventions données à la France.
Ouais.
Ça a été l'une des causes de la fameuse affaire de la fièvre aphteuse dont nous parlerons après.
On va en parler de ça. Claude, ce que je voudrais vous demander, c'est la permission de faire une pause.
Mais avec grand plaisir.
Parce que nous avons ici Monsieur Michel de Gégère qui est venu nous voir. Pour nous, c'est un rituel. Gégère vient une fois par an pour nous parler de l'université d'été de Renaissance catholique. Et donc, il est arrivé. Je ne veux pas... Comme je sens que les questions agricoles le passionnent, je ne voudrais pas empêcher de les écouter à la radio dans sa voiture. Ça vous intéresse beaucoup, Michel Degère, les questions agricoles. Vous-même, vous êtes gros propriétaire dans la région parisienne, je crois. Vous avez un jardin d'au moins 200 mètres carrés.
Là, il fait 800 mètres carrés.
800 mètres carrés.
Et on n'y cultive rien parce que je n'ai pas la main verte.
Ah bon, bon. Alors donc, bah écoutez, 800 mètres carrés, ça tombe pas sous le coup de la SAFER, ça ne risque pas d'être préempté.
Non, 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 là il ne risque pas, d'autant qu'en fait le terrain est attenant à une maison, donc il faudrait qu'il y ait préemption du tout, si vous voulez, tant que le terrain il reste attaché.
Ah bah
le
oui.
problème, c'est de pas vendre le terrain indépendamment de la propriété.
Ouais. Mais non, il a tellement d'enfants que
ils le défendront,
ils
leur terrain.
Défendront.
J'espère bien.
Mais vous n'arrivez pas à les nourrir avec un terrain de 800 mètres carrés.
Surtout qu'ils
n'y
plantent rien.
Surtout
qu'ils n'y plantent rien. On n'est pas en autarcie, ils ne mangent rien de ce qui est dans le jardin, mais en revanche, ils le détruisent.
Ah ben c'est bien, déjà, c'est un début. Même pas les pissenlits au mois de février et mars, par
exemple. Si, et puis l'oseille. Enfin,
ah ben voilà. Alors, cette année, donc on fait, les auditeurs nous pardonneront cette apparente incohérence, mais c'est vraiment pour des questions d'emploi du temps, puisque Michel Degère est un homme extrêmement occupé. Il faut qu'il prépare cette université dont il est le doyen. Vous êtes le doyen ?
Oui, il n'y a pas de titre officiel, le titre varie chaque année, mais...
Moi, j'aimerais bien, si un jour j'étais quelque chose, j'aimerais être recteur magnifique, comme l'abbé Laurence. Je trouve que ça, c'est vraiment le plus beau titre, recteur magnifique de l'université d'été de Renaissance catholique. C'est bien, ça vous plaît?
Je pense que ce titre peut vous être décerné cet été à l'issue de votre conférence, si, comme à l'accoutumée, vous traitez le sujet.
Donc quel est le sujet global? Je le sais, mais je fais semblant, je suis l'idiot, c'est pas difficile.
Alors le thème que nous avons choisi cette année est « Le christianisme va-t-il disparaître ?» Thème qui peut paraître un petit peu, question qui peut paraître absurde, parce que les auditeurs de Radio Courtoisie répondront, évidemment, le christianisme ne va pas disparaître. Mais si on répond ça, on répond ça pour des raisons surnaturelles, parce que le christianisme, l'Église, a les promesses de l'éternité. Il n'empêche que si on laisse de côté pendant un instant, ce qui est absurde, je sais bien, mais il faut laisser de côté, par hypothèse d'école, si on laisse de côté la vue surnaturelle des choses, à vue humaine... Pour un sociologue agnostique, eh bien, le christianisme est en train de disparaître. Donc, il nous a semblé quand même intéressant de nous pencher sur cette question, même si nous avons l'espérance et la certitude que le christianisme ne va pas disparaître. Nous voudrions nous poser les questions de savoir quelles sont les raisons pour lesquelles apparemment il est en train de disparaître. Et évidemment, la Providence nous promet... la survie du christianisme et de l'Église, mais peut-être que la Providence attend de nous que face à cette disparition apparente, face à cette crise extraordinaire que connaît le christianisme et le catholicisme, eh bien peut-être la Providence attend de nous que nous soyons l'instrument qui permettra au christianisme de ne pas disparaître. Je crois qu'il faut sortir de l'idée selon laquelle parce que la Providence nous a fait des promesses, nous n'avons rien à faire qu'à nous croiser les bras, éventuellement prier, et c'est très très bien de prier, c'est essentiel, c'est la première chose à faire, mais dans tout l'enseignement de l'Église, il n'a jamais été dit que les chrétiens devaient se croiser les bras une fois qu'ils avaient prié et estimer que Dieu pourvoirait à tout. Jeanne d'Arc disait qu'il fallait d'abord prier et qu'ensuite ensuite combattre et qu'ensuite Dieu donnerait la victoire. Donc je crois qu'il faut faire les choses dans ce sens-là. Or, ce qui nous a frappé, c'est que nous assistons à une espèce de montée de l'hostilité contre l'Église. Bon, c'est pas tout à fait nouveau. L'anticléricalisme, en tout cas, a des racines très profondes en France. Mais il semble bien que nous assistions depuis quelques années à quelque chose de nouveau, en ce sens qu'on est passé de la dérision traditionnelle héritée justement de la tradition anticléricale à une hostilité affichée et violente et qui paraît un petit peu extraordinaire dans la mesure où justement l'Église est apparemment dans un état de faiblesse tel qu'elle ne devrait pas représenter une menace pour la société moderne. Aujourd'hui, ce que représente l'Église, ce que représentent les catholiques, sur le papier, n'est pas une vraie menace, et donc il nous a paru intéressant de nous pencher sur les raisons pour lesquelles cette Église diminuée, cette Église affaiblie, fait tout de même assez peur à la société moderne pour que se déclenchent contre elle des campagnes d'une hostilité très 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 vive. Je pense que tous les auditeurs ont en tête la dérision dont l'Église fait l'objet systématiquement dans les grands médias. Je pense que les auditeurs de Radio Courtoisie ne regardent pas tous les soirs la télévision et jamais Canal+, mais enfin ils ont entendu parler des campagnes qui ont lieu, des campagnes qui ont eu lieu contre le pape à une époque, d'une façon générale de ce mépris dans lequel l'Église est tenue, mépris qui a conduit quelqu'un qui est vraiment pas de, je dirais, de notre chapelle, comme René Raymond, qui est vraiment tout ce qu'on peut faire de plus modéré, à écrire un livre là-dessus qui s'appelle Le christianisme en accusation, et à remarquer que le christianisme fait l'objet d'attaques que l'on ne tolérerait jamais aujourd'hui contre les autres religions.
Oui, il faut ajouter à ça d'ailleurs que si c'est le cas, parce que les responsables de l'Église en France sont les seuls responsables religieux à ne jamais se défendre contre les attaques. Ça, c'est tout à fait clair. Que ce soit les Israélites ou les musulmans, ils ont des associations, ils ont des avocats, ils ont des systèmes en quelque sorte automatiques qui font que chaque fois qu'ils sont mis en cause, ils font jouer la loi contre leurs éventuels calomniateurs, insulteurs, diffamateurs, tandis que les évêques ne le font jamais. Ils ne veulent pas le faire. La seule association qui existe, c'est la Griffe, qui est obligée de se battre contre les évêques en même temps qu'elle se bat contre les insulteurs de l'Église, ce qui est tout à fait paradoxal.
Oui, mais je pense qu'une des explications est le fait que le catholicisme en France, par exemple, enfin singulièrement, n'est pas dans la situation d'une minorité, car les catholiques pratiquants sont minoritaires, mais la France est tout de même un pays catholique. Les gens les non-chrétiens qui peuplent la France sont quand même débaptisés. Et donc, lorsqu'ils insultent l'Église, ils n'ont pas l'impression de commettre la vilenie qui consisterait à insulter une minorité, puisque finalement, ils font de l'autocritique. Ils se sentent suffisamment catholiques pour une chose, c'est pour avoir le droit d'insulter l'Église. Et je pense que c'est ce qui fait la situation particulièrement difficile de l'Église face à ces attaques, avec le fait aussi que les élites actuelles, si vous voulez, je pense qu'à l'époque de l'anticléricalisme, le petit Percombe, etc., c'était des gens qui étaient très bien formés, qui connaissaient très bien le catholicisme. Et c'est pour ça que je pense qu'on passe de la dérision à l'hostilité. C'est que dans l'anticléricalisme traditionnel, tout le monde connaît le catholicisme. Alors, les gens qui sont contre s'en moquent. Mais ils savent ce que c'est, ils connaissent les dogmes, ils connaissent la théologie. Aujourd'hui, on est face à des élites qui ne comprennent pas, parce que n'ayant pas été catéchisés ou étant très très mal catéchisés, étant totalement déchristianisés, ayant perdu toute culture chrétienne, lorsqu'ils se trouvent face à des comportements chrétiens, eh bien, ils ont une haine qui est d'autant plus forte que c'est un comportement qui leur paraît tout à fait anormal. Ils ne comprennent pas. Je pense que vous avez déjà été confronté à des conversations comme ça avec des gens qui, face à des comportements qui sont le béaba du catéchisme, ont une réaction de révolte parce qu'on ne leur a jamais appris ça et ils ne comprennent pas. Ils ont l'impression que ce sont des comportements aberrants.
J'avais un ami, j'ai un ami qui est venu me voir ce matin à la maison et qui m'a raconté. Il a mis sa fille dans une école catholique, enfin catholique, oui, catholique sous contrat, dont le directeur est un prêtre, et en plus un prêtre en clergyman. Donc lui, il s'attendait à trouver non pas des traditionnalistes, mais enfin des gens fréquentables. Et bon, il a découvert que dans cette école, naturellement, toutes les religions sont acceptées, de préférence d'ailleurs aux catholiques. Mais mieux que ça, il a appris par sa fille que la propre fille d'une prof de la classe, qui est dans la classe de sa mère avec la petite fille de cette amie, se revendique sataniste. Et elle vient, elle a 13 ans, alors ça fait rire. Ça va faire rire jusqu'à 14 ans ou 15 ans où elle ira saccager un cimetière, puis bon, etc. Et elle se revendique, elle s'habille, elle porte les insignes de son appartenance. Et sa mère, donc, la voit puisqu'elle l'a en classe et elle l'a à la maison, pour autant que je sache. Elle est prof, donc il y a. Et quand la fille de cette amie a essayé de discuter avec cette gamine de 13 ans qui se revendique sataniste, elle a découvert qu'elle n'avait pas la moindre idée de ce qu'était la religion catholique. Pas la moindre. Elle ne sait rien. Donc elle est fille d'une prof dans une école catholique et jamais elle a reçu le moindre enseignement catholique. Et naturellement, elle a basculé dans le premier camp qui s'est manifesté à elle, c'est-à-dire le camp de la provocation, ce qu'on comprend très bien chez les jeunes maintenant. Il y a d'ailleurs, il y a toujours eu cet esprit de provocation, de faire le contraire de ce qui est bien, etc. Mais là, c'est tout à fait frappant, et ça ne provoque l'émotion de personne. Et quand cet ami est allé voir le directeur de l'école en lui disant « Écoutez, c'est quand même incroyable, enfin, c'est... » Eh bien, le directeur lui a fait savoir que ça n'avait strictement aucune importance et qu'il fallait prendre ça comme grano salis. Donc on est vraiment dans un pays qui même c'est même pas déchristianisé, c'est-à-dire que on est dans un pays où les gens ne savent même plus ce que c'est.
Et alors ce qui fait que lorsque l'on assiste à la sécularisation de la société par les réformes type libéralisation de l'avortement, le Pax, tout, une chose et l'autre, le génisme, les mères porteuses, l'euthanasie et j'en passe, eh bien, on est face à une revendication du bien, c'est-à-dire que les frontières du bien et le mal, non seulement, on ne peut pas dire que les frontières du bien et du mal sont devenues imprécises, elles se sont inversées. Oui. C'est-à-dire que le bien est devenu le mal et que le mal est devenu le bien. On assiste à ça, c'est-à-dire que l'euthanasie pour l'instant est une chose qui est discutée, mais lorsque on aura passé la frontière et que ça sera légalisé, les gens qui seront contre le fait d'arrêter les souffrances, etc., seront considérés comme des fous dangereux.
Oui, absolument.
Comme aujourd'hui, quelqu'un qui attend un enfant anormal et qui ne se fait pas avorter, eh bien, les mères se font engueuler par leurs médecins et considérées comme des gens irresponsables.
Sur ce plan-là, il y a une législation qui est en cours d'élaboration, qui sera votée, moi je pense, assez rapidement maintenant. La campagne commence, hein. Avec l'arrêt Perruche, c'est tout à fait, ça va dans ce sens-là. La législation qui est à l'étude en ce moment, je dirais même à l'étude des loges, c'est une législation qui consiste à dire, vous avez parfaitement, si au cours des examens prénataux, on constate que vous avez un risque d'avoir un enfant handicapé, vous avez bien entendu, au nom de la liberté individuelle, et au nom de la liberté de religieuse, et au nom de la liberté de conscience et de la liberté philosophique, vous avez parfaitement le droit de garder cet enfant et de ne pas le faire avorter. Mais, étant donné qu'un enfant handicapé constitue une lourde charge pour la société, il faut savoir qu'une fois que votre enfant sera né avec ce handicap dont vous avez été dûment prévenu et qu'on vous a proposé d'éviter par l'avortement thérapeutique ou par l'avortement préventif, à ce moment-là, vous ne pourrez plus bénéficier du soutien de la société laïque, puisque si vous avez eu cet enfant, c'est par choix personnel, choix philosophique et religieux. Et la société laïque ne peut pas financer les conséquences d'un choix religieux. Donc votre enfant sera à votre charge entièrement, les conséquences de son handicap ne seront pas prises en charge par la sécurité sociale et vous n'aurez plus aucun droit. C'est ça qui est en train de se préparer. Alors bien entendu, on ne va pas dire aux gens, attendez, vous avez un enfant qui est suspect de... le fœtus est suspect, si j'ose dire, d'être trisomique, donc on va vous obliger à avorter. Ça serait une atteinte, ça serait de l'eugénisme, et comme chacun sait, l'eugénisme est nazi. Tandis que la suppression des allocations familiales pour les enfants trisomiques ou des aides sociales ou des aides médicales pour les enfants trisomiques, ça c'est pas du
du nazisme. Ça, c'est de la gestion.
C'est-à-dire, je pense que ça ne sera qu'une étape et que l'eugénisme est en vous. Vu, moi, j'ai entendu sur France Inter, Radio Nationale, que l'eugénisme avait été discrédité par le fait qu'il avait été pratiqué par les nazis, mais qu'il fallait maintenant distinguer l'eugénisme du nazisme et réhabiliter l'eugénisme, car il y a un eugénisme démocratique. C'est celui qui va vers l'amélioration des conditions sanitaires de la société et le bien de tous. Donc, encore une fois, je crois qu'on est dans une société de pleine désorientation diabolique. Il n'y a pas d'autre mot où le mal est devenu le bien.
Quant à l'eugénisme, je voudrais juste rappeler un petit détail historique que d'ailleurs je cite dans mon livre. C'est que les lois eugénistes en Allemagne nazie ont été mises en vigueur très exactement de septembre 1939 à début 1941, où ça s'est arrêté immédiatement suite aux pressions de l'Église catholique sur le Führer, qui a bloqué tout, alors qu'elles ont été entamées en 1907 dans l'État de l'Ohio aux États-Unis, très démocratiques États-Unis, et elles sont toujours en vigueur.
Ouais. Vous avez dans le même ordre d'idées, et je vois que M. Timmermans s'est penché sur cette question et qui est tout à fait dans notre sujet, l'affaire de Mgr Piquant, où maintenant le crime absolu pour la société moderne est la pédophilie. Je veux dire, loin de moi l'idée de réhabiliter, de minimiser les pédophiles, mais enfin c'est une chose que la société a effectivement tolérée, sur laquelle elle a baissé les yeux pendant des années, puis tout à coup on assiste depuis 2-3 ans à une espèce d'immense campagne contre la pédophilie, et comme d'habitude on a un premier réflexe de se dire bah, c'est une bonne chose, parce que si on peut mettre les pédophiles hors d'état de nuire, c'est une très bonne chose. Mais quand il y a des campagnes qui se déclenchent comme ça, on se demande toujours un petit peu qu'est-ce qu'il y a, quelque chose qui cloche.
En l'occurrence, on voit une chose, c'est qu'il y a 6 mois, même pas 6 mois, il y a 3 mois, on a eu la preuve que Gaillot, quand il était à Évreux, avait reçu le curé Vat Boncœur, qui avait été viré du Canada parce que c'était un véritable vampire pédomane, et qui s'était réfugié dans le diocèse d'Évreux, et donc Gaillot l'avait reçu. Ça n'a fait absolument aucun bruit, parce que Gaillot a la manne, en quelque sorte, de la société dominante. Hein, on a appris récemment qu'il était classé trotskiste par les renseignements généraux. C'est-à-dire que les renseignements généraux, c'est pas non plus la loi et les prophètes, mais enfin...
Ah ben, primitivement, bon. Il était membre refondateur du Parti communiste il y a quelques années. Alors,
mais en tout cas, donc, cet homme-là n'a pas été poursuivi le moins du monde par les médias, mais quand c'est Piquant...
Ce qui est intéressant, c'est que qu'est-ce qu'on reproche à Mgr Piquant, c'est d'avoir respecté le secret qui le liait à son prêtre. Mmh. Et donc on voit bien que finalement, ce qui scandalise la société... c'est que l'Église applique ses propres règles. Et on agite dans cette affaire le chiffon rouge de la pédophilie, parce que ça scandalise à juste titre tous les braves gens, mais en réalité, l'objectif qui est visé par la campagne, c'est la capacité et le droit de l'Église d'avoir ses propres règles, d'avoir ses règles autonomes.
Et surtout, il faudra suivre très attentivement d'éventuelles sanctions, si sanctions y a lieu, contre les supérieurs hiérarchiques de M. Kaiser-Merz.
C'est ce que j'allais dire. C'est voilà. Que,
l'inspection académique,
le, notamment. Le pédomane de Cône-sur-Loire, l'instituteur pédomane franc-maçon de Cône-sur-Loire, on a appelé ses supérieurs, on leur a posé des questions, mais le gars qui est venu, l'inspecteur d'académie qui est venu et qui a dit bon, bah, le dossier a été planqué, il a été égaré volontairement et tout, il n'y a aucune enquête pour savoir qui a fait ça. Alors il devait y avoir l'équivalent de Piquant devant le tribunal maintenant, l'équivalent à l'éducation nationale.
C'est en train de venir, on voit effectivement la façon dont ça se dessine dans les médias, on voit bien qu'ils sont quand même confrontés à ce problème.
Ah oui, mais ils vont passer où? Enfin bref, là n'est pas, enfin, c'est pas le sujet d'ailleurs de l'université
non, c'est pas
d'été,
de l'université,
mais c'est un des aspects.
Le sujet de l'université d'été, c'est cette espèce d'immense convergence d'attaques contre l'Église, alors que l'Église est affaiblie, que l'Église est toujours en crise, que la crise qui a suivi le Concile Vatican II et le grand mouvement sociologique des années 60, cette crise n'est pas finie, l'obéissance n'est pas rétablie dans l'Église, un certain nombre de principes ont été sapés de l'intérieur par les textes conciliaires et par la pratique post-conciliaire, et je dirais que l'Église, face à cette montée d'hostilité, elle est encore trop forte pour ce qu'elle a de faible ou trop faible pour ce qu'elle a de fort. C'est-à-dire qu'on voit bien que le pape tente de sauver l'enseignement moral traditionnel de l'Église, mais c'est devenu, à partir du moment où, par ailleurs, l'Église a un petit peu abandonné sa prétention à régenter la société, à lui imposer sa morale, parce qu'elle a admis le principe de la laïcité, parce qu'elle a admis l'œcuménisme, parce qu'elle a admis les principes de Vatican II, eh bien elle se trouve dans une position très difficile, parce que lorsqu'elle maintient précisément cet enseignement moral, eh bien ça paraît insupportable à ceux qui, dans la société civile, ont maintenant la prétention d'édicter eux-mêmes les limites du bien et du mal. Donc c'est ce que nous avons voulu mettre à plat. Le christianisme va-t-il disparaître? Bien sûr que non, nous savons que le christianisme ne va pas disparaître, mais nous pensons qu'il est nécessaire que les catholiques prennent conscience de la gravité de la situation. Je crois qu'il y a eu dans l'Église un moment de découragement, d'impression qu'on avait perdu la partie, et puis que le génie du pape Jean-Paul II a été un petit peu de redonner courage aux catholiques, de voir qu'ils n'étaient pas seuls, qu'ils étaient quand même, qu'ils représentaient encore quelque chose dans la société. Il y a eu ce grand enthousiasme des différentes JMJ, la sanctification de l'an 2000 par le jubilé, mais qu'il ne faudrait pas que ça débouche sur une espèce de sentiment que on a gagné la partie. On est très très loin d'avoir gagné la partie, on est en train de la perdre, et je pense qu'il faut que les catholiques s'arment pour combattre la montée des valeurs de cette société, de cet ordre immoral qui est en train de se mettre en place. Et donc l'objectif de notre université d'été est d'un petit peu de faire le point sur les différentes menaces qui montent vers l'Église, de faire le point en même temps sur l'état de la crise de l'Église, en quoi elle a pu être enrayée, en quoi elle continue, et d'essayer de trouver sur quel principe et avec quelle méthode combattre pour que cette déchristianisation générale de la société puisse être arrêtée.
Alors,
je m'excuse d'intervenir, mais il y a quelque chose, je crois, auquel notre ami devrait bien réfléchir, qui est, je pense, un problème qui est important pour beaucoup de gens. C'est cette confusion qui est malheureusement entretenue dans le thème que vous avez abordé. Pour beaucoup, c'est une confusion entre christianisme et catholicité.
Oui, alors, c'est vrai. Enfin, disons, pour la commodité du langage.
Oui, mais c'est très grave.
On fait la différence
On a, à l'heure actuelle, je n'ai pas peur des mots, je ne suis pas un émule de Vatican II, vous me connaissez, une disparition quasi totale, à part quelques petits rochers de gens qui défendent bec et ongle un certain nombre de principes qu'on qualifie d'intégristes, de traditionnalistes, de tout ce que vous voulez, anistes, de fanatiques, de tout ce qu'on veut. Et puis à côté de ça, il y a une énorme décomposition vaguement démagocratique, où n'importe qui fait n'importe quoi avec des cérémonies qui ressemblent à rien, avec des morceaux de pain, on consacre de l'orangina à la place du vin, enfin on fait des trucs absolument insensés. Le catholicisme disparaît complètement, mais un certain nombre de formes de christianisme, de pataugerie écuménique, de déviation post-protestante, post-tout ce qu'on veut, au contraire, fleurissent.
Oui. Disons que c'est un des sujets qui sera traité d'ailleurs dans cette université.
Voilà, et puis dans le titre, on a pris « Le christianisme va-t-il disparaître ?» tout simplement parce que pour nous, le christianisme se confond avec le catholicisme dans la mesure où l'Église catholique est la seule et unique Église du Christ. L'affaire pour nous est simple, et les christianismes qui ne sont pas dans l'Église catholique sont des christianismes dévoyés. Donc je pense pas qu'il y ait de débat sur cette question et d'ambiguïté sur cette question.
Alors pratiquement, donc cette université d'été se passe
pratiquement cette université d'été se passe du 12 au 15 juillet à Montreuil-Bellay, qui est un village fortifié, je crois très joli, à côté de Saumur.
C'est ravissant.
Et donc c'est 4 jours qui sont partagé entre un cycle de conférences qui suit le thème dont nous venons de parler, avec une série de conférences sur le catholicisme hors la loi, avec notamment des conférences de Philippe Conrad, de Jean Sévilla, de Jean-Marie Lemenet, qui est le président de la Fondation Jérôme Lejeune, qui va parler des questions de la vie, d'Antoine Assaf, qui va parler des chrétiens d'Orient, de Serge de Beketch, qui va parler des religions de substitution, bouddhisme et New Age, et puis d'un deuxième cycle de conférences sur la persistance de la crise de l'Église, avec Daniel Raffard de Brienne, qui parlera de la crise de la transmission de la foi, l'abbé de Tanoirne, qui parlera de la crise de l'esprit missionnaire, l'abbé Barthes, qui parlera de la crise de l'autorité. Mais comme on n'a pas voulu non plus que cette université d'été soit trop noire, le but c'est pas non plus de désespérer les gens et qu'ils repartent en disant que tout est fichu et que c'est pas le but. Le but c'est de former des militants, les former pour qu'ils réagissent. On a voulu éclairer un petit peu ce cycle de conférences par trois petites lumières qui seront le premier soir un témoignage du docteur Dor. Bon, bah évidemment tout va mal, mais on peut quand même défendre la vie. On peut le faire en petit nombre, mais c'est toujours des petits nombres que viennent les raisons d'espérer. On peut le faire, ça sera le deuxième jour, le témoignage de Michel Valadier en créant une école catholique. Ça, c'est un exemple parmi d'autres, mais enfin, Michel Valadier a créé il y a 7 ou 8 ans, avec 3 familles et une vingtaine d'enfants, une école catholique qui a maintenant 300 élèves, qui ouvre l'année prochaine un lycée, dans 2 ans un collège de filles, et qui refuse du monde, et qui est vraiment un motif d'espérer, en ce sens que avec un peu d'énergie et puis pas trop de considération des obstacles, on arrive quand même à déplacer des montagnes. Et puis le troisième témoignage sera celui de Luc Adrian, qui viendra parler des franciscains du Bronx. C'est une communauté qui s'est mise au service des plus pauvres, un petit peu dans l'esprit de Mère Teresa, et auquel Luc Adrian a consacré un très beau livre qui s'appelle Des fleurs en enfer, les franciscains du Bronx. Et puis il y a ce cycle de conférences, mais l'université d'été, ça n'est pas seulement un cycle de conférences. Il y a également un certain nombre de visites culturelles. On sera dans une région exceptionnellement riche de ce point de vue-là, avec notamment une grande visite, une après-midi entière de l'abbaye de Fontevraud. Il y a pour les moins de 35 ans, moins de 40 ans, une après-midi, comme d'habitude, une espèce de rallye sportif qui se conclut par un spectacle le soir, qui est toujours assez amusant et qui est un bon moment qu'on passe ensemble. Il y a une librairie où on peut acheter des bons livres. Il y a l'occasion de rencontrer les auteurs des conférences avec qui on peut parler. Il y a le réconfort que cela donne de se retrouver un petit peu entre gens qui partagent les mêmes combats, qui ont les mêmes espérances. Et voilà, ces 4 jours d'amitié chrétienne.
Il y a une ambiance quand même extraordinaire. Ça, moi, depuis des années que je vais à l'université d'été de Renaissance catholique, c'est vraiment un des grands bonheurs du début d'été, parce que on se retrouve entre gens gentils, sympathiques, on s'amuse bien. Voilà. C'est vraiment un grand moment.
Alors, il y a une initiative qui est nouvelle et dont je voudrais te dire un mot, c'est que nous voudrions, évidemment, si vous voulez, c'est un cycle de formation qui n'est pas un cycle pour se faire plaisir, qui est un cycle pour se donner des raisons de se battre, une fois encore. Et donc, il est évident que ça s'adresse en priorité aux plus jeunes. Tout le monde est accueilli, il y a tous les âges à l'université d'été, mais il est évident qu'il est plus utile de former des militants de 20 ans que des militants de 80 ans, même si souvent les militants de 80 ans sont très actifs. Mais enfin,
en général, ils sont déjà pas mal formés.
Voilà, on peut penser qu'ils ont déjà intégré les raisons pour lesquelles il fallait se battre. Et donc, il y a toujours l'obstacle du prix, parce que c'est 4 jours logés, nourris, et on ne peut pas casser les prix indéfiniment. Donc là, on a fait un effort pour les jeunes, en ce sens que tous les jeunes qui soit sont déjà venus à une université d'été, soit sont inscrits à celle-ci, nous leur avons fait une offre qui est de faire venir un ou deux ou trois ou quatre ou cinq, mais enfin une ou deux personnes de leur âge, un ou deux jeunes de leur âge, et à ce moment-là on pratiquera des prix groupés, des prix cassés, c'est-à-dire que si vous avez moins de 30 ans, je crois que c'est la barre, et que vous faites venir deux jeunes avec vous, eh bien il y a une importante réduction pour vous et pour les deux personnes que vous amenez.
Donc, plus vous êtes nombreux, moins c'est cher.
Voilà. Et finalement, à partir de trois, le deuxième est gratuit quasiment. Ah, voilà. Donc, j'espère par là, bon, il ne s'agit pas de casser les prix comme au solde, parce qu'on va essayer de faire une université qui ait les mêmes qualités que les précédentes, mais il s'agit de passer outre à l'obstacle du prix qui, quand on est jeune, est un vrai obstacle, parce que pour 4 jours, c'est quand même un investissement, mais je crois que c'est quand même un investissement utile et que notre famille de pensée doit comprendre que c'est bien de ronchonner, c'est bien de râler, c'est bien de se désespérer, mais c'est aussi bien de se former pour essayer de faire en sorte que les choses changent.
Alors, l'adresse où on peut s'inscrire, le numéro de téléphone.
Alors, on peut s'inscrire à Renaissance catholique, 89 rue Pierre Brossolette, 92 130 Issy-les-Moulineaux. 89 rue Pierre Brossolette, 92 130 Issy-les-Moulineaux. Le téléphone est le 01 46 62 97 04. Je répète, 01 46 62 97 04. Le fax est le 01 46 62 95 19. Les prix varient. Je crois que le prix le plus cassé, c'est 600 francs. Et le prix pour les gens qui veulent aller dans un bon hôtel doit tourner autour de 1200 francs. Je vous les donne de mémoire parce que je ne les ai pas sous les yeux. Mais enfin, c'est cet ordre de grandeur. Je crois que ça les mérite et oui, qu'on ne fait pas de bénéfice là-dessus.
Merci Michel de Gégère. Donc, université d'été de Renaissance catholique, le week-end du... Enfin, c'est autour
14
du
juillet,
week-end du 14 juillet.
Du jeudi 12 juillet au dimanche 15 juillet.
Merci bien. Alors, Claude Timmermann, le temps nous a un petit peu... Enfin, on s'est un petit peu embarqué.
Mais c'est
pas
grave.
On va manquer de temps pour finir.
Ah, ça, c'est plus grave, par contre.
Ça, c'est beaucoup plus grave. Ce que je vais vous proposer, c'est de revenir pour évoquer les autres aspects du sujet. On a évoqué un des aspects, qui est l'aspect, si j'ose dire, administratif, l'aspect du totalitarisme...
En partie seulement. Il y a le problème de la mutualité sociale agricole il y a quelque chose.
La question de la mutualité sociale agricole, est-ce que vous vous sentez capable de nous exposer ça en 5 minutes ?
Ah, tout à fait.
Bon, alors
tout à fait.
Parce qu'effectivement, c'est un sujet très intéressant.
Le problème est extrêmement simple, c'est ce qu'on appelle un racket fiscal. Le système de la mutualité sociale agricole est le suivant, c'est un cas absolument unique. Toute terre au-delà d'une tolérance qui varie selon les départements au bon gré des préfets et des lobbies agricoles, toute terre au-delà d'une superficie qui oscille entre 1 et 2 hectares est soumise à taxation agricole de la mutualité sociale agricole. En moyenne de 2 hectares à 7 hectares, c'est-à-dire si vous avez une petite propriété, vous allez payer une taxe de solidarité agricole.
À partir du moment où vous êtes dans une région agricole.
À partir du moment où rien du tout, où vous avez de la terre, c'est tout, qui n'est pas classée en parc de jeux, etc. Vous avez de la terre, vous payez une taxe de solidarité, étant entendu que vous ne cultivez pas votre terre. Vous payez une taxe de solidarité. Je ne sais pas si vous, quand vous allez acheter dans un grand magasin que je ne citerai pas, une perceuse pour faire des travaux chez vous ou une scie circulaire, on va vous faire payer une taxe de solidarité avec les menuisiers. Hein? Bon, c'est exactement ça.
Ça m'a jamais... Mais remarquez, ça n'a jamais été fait, mais si, ça a déjà été fait avec les cassettes vidéo et les cassettes audio, où vous payez une taxe qui est censée être reversée aux gens qui font de la musique. Parce que cette cassette, elle est censée servir à enregistrer de la musique, donc les gens qui font de la musique ne seront... Comme vous allez enregistrer la radio, vous ne paierez pas
à la SACEM.
À la SACEM.
Oui.
Et par conséquent, vous êtes sous... Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? C'est pas vrai. Enfin, qui a apporté son téléphone ? C'est moi.
C'est pas moi, je le jure.
Bon. C'est pas moi non plus.
Donc, vous payez la taxe en achetant les cassettes. Et donc, c'est la même chose.
La taxe, c'est quand même extrêmement modique. Là,
oui,
le problème,
là, c'est...
Parce que dès que vous dépassez cette taxe de 7 hectares, c'est ce qu'on appelle en moyenne la demi-exploitation agricole. Quand vous êtes entre 7 et 14 hectares, vous payez les cotisations sociales sous forme partielle quand même, telles qu'elles sont prévues par la MSA. Et au-delà de 14 hectares, vous avez droit au statut de gré ou de force d'exploitant agricole, où là, vous payez tout. Payez tout, ça veut dire que comme vous, vous avez une activité autre, bien entendu, qui est celle avec laquelle vous gagnez votre vie, la mutualité sociale agricole vous envoie cyniquement un petit papier en expliquant que le problème agricole est pour vous un statut secondaire et qu'il est hors de question que vous touchiez un centime de remboursement de quelques frais médicaux ou autres que ce soit, puisque vous dépendez pour cela de votre activité principale et donc du régime général de la sécurité sociale.
C'est-à-dire que...
Vous payez des cotisations pour rien.
Voilà. Vous payez des cotisations et vous ne touchez rien. C'est-à-dire voilà. que c'est...
Attendez, c'est pas fini. Comment sont calculées ces cotisations? Là, il y a quelque chose de diabolique qui est extraordinaire, c'est ce qu'on appelle le relevé parcellaire et le revenu forfaitaire d'exploitation. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a des barèmes qui ont été constitués, dont disposent les gens de la MSA, et qui vous disent sur une terre de telle catégorie, ça c'est dans votre acte de vente de propriété, il y a un barème qui dit que le revenu prévu est de temps. Donc, vous payez sur temps. C'est ainsi, par exemple, un exemple que je connais bien à l'heure actuelle, qui est le mien, sur 4 hectares de prêt, je suis censé avoir un revenu cadastral de 9 000 francs par an.
Voilà.
Revenu que je n'ai pas. Bien sûr. Je suis taxé sur ces 9 000 francs, qui ne sont pas du tout un revenu, mais qui sont un revenu potentiel que je ne touche pas. Et beaucoup mieux que ça, la MSA transmet ses bordereaux au service des impôts. Et il faut donc savoir qu'à l'arrivée, vous allez être, vous, taxé en impôt sur le revenu au niveau de votre tranche supérieure d'impôt, du montant de ce revenu forfaitaire de votre propriété
que
vous ne touchez pas.
C'est fabuleux, quoi.
C'est absolument fabuleux.
Alors, résumons. Vous avez un terrain, mettons, de 3 hectares à voilà. côté de votre maison, ou 4 hectares, peu voilà. importe. Sur ce terrain, la mutualité sociale agricole dit ce terrain est censé, s'il était exploité par un agriculteur, il rapporterait X francs,
voilà.
lesquels généreraient une taxe de 9 000 francs par an.
Non, il part de l'idée que ça génère un revenu, c'est
un revenu voilà.
de temps voilà, par an, ça. Et donc on vous impose dessus.
On vous taxe. Alors vous payez les impôts et vous payez la mutuelle agricole.
Absolument.
Mais si vous vous cassez la jambe en traversant votre terrain, la mutuelle agricole ne vous rembourse rien du tout,
puisque c'est pour vous une activité secondaire, donc vous dépendez du régime général de la sécurité sociale.
Alors ça, on ne le dit jamais. Vous le dites dans le dernier numéro du Libre Journal d'une façon abondante, et vous en dites bien plus. Alors, vous reviendrez pour qu'on parle de ces questions
Il faut en parler. J'aimerais dire un tout petit mot avant de partir ce soir, parce que j'étais venu un petit peu parler de ça un peu en avance, qui est le problème d'une offensive dramatique que nous vivons dans le Cotentin, qui est l'offensive du lobby porcin de la Chambre d'agriculture et de la FNSEA, qui est en train de délocaliser les problèmes des porcheries de Bretagne dans le Cotentin.
Alors ça, vous viendrez prochainement. Hein, on refait une émission parce que je crois que c'est vraiment un sujet très important.
Je voudrais en parler très prochainement parce que beaucoup de gens en ce moment sont angoissés par une économie qui est celle du tourisme et qui est celle de la pêche qui risque d'en souffrir. Et il faut savoir que tous les gens qui sont vos auditeurs peuvent, s'ils vont dans le Cotentin demain, signer des pétitions, signer des documents liés aux enquêtes publiques pour l'ouverture de ces porcheries, même s'ils n'habitent pas le Cotentin, car les enquêtes publiques ne sont pas justiciables de domicile. Vous pouvez demain les signer en Corse ou à Marseille, que ceux qui aujourd'hui veulent éviter que le Cotentin ne devienne la Bretagne et que la baie de Grandville ou celle du Mont-Saint-Michel ne soit la baie de Saint-Brieuc, eh bien, qui nous aide. Voilà.
Ok. Bon, on refait une émission prochainement.
Oui. Peut-on se libérer de l'accord de la SAFER lorsque l'on veut morceler un terrain de 30 hectares?
Ben, ça me paraît très difficile. Ce qu'il faut, c'est le vendre par petits morceaux, si on le peut.
En 30 ans.
Et autre question, je suis propriétaire d'une parcelle que j'utilise à des fins d'agriculture amateur. Je veux racheter une parcelle attenante. Le propriétaire est d'accord pour la vente, mais d'après le notaire, la SAFER a son mot à dire.
Eh ben oui, absolument. Il suffit qu'il y ait un autre agriculteur ailleurs qui soit plus gros, plus important que lui, mieux introduit, et il va récupérer le terrain.
Merci. Merci Claude. Vous reviendrez. On a été
c'est pas grave.
Pris par le temps, comme toujours d'ailleurs, mais c'est un sujet tout à fait passionnant, je crois. Et puis, on peut déjà savoir beaucoup de choses en lisant le numéro du Libre Journal, numéro 240, qui vient de paraître. 4 places France Litz, l'abonnement est de 700 francs. Si vous voulez juste ce numéro, vous envoyez 30 francs en timbre et vous recevrez ce numéro. Ça vous permettra de découvrir le Libre Journal. Henri Henri de Fersan, rapidement, votre bouquin est enfin paru, L'imposture antiraciste.
Ça n'a pas été sans mal.
Vous pensez que c'est par pur accident que vous avez eu autant de...
Ah oui, non, c'est vraiment un enchaînement de coïncidences entre les chronopostes qui arrivent pas dans les délais, les lettres qui se promènent, l'ordinateur qui casse, les camions qui sont bloqués par des fêtes. Enfin, j'ai eu absolument la totale.
Alors maintenant, ça y est, tous les auditeurs et les lecteurs,
tous ceux
qui avaient souscrit l'ont reçu.
Alors, tous ceux qui ont souscrit sont partis il y a un bon bout de temps, et si les personnes qui ont souscrit ne l'ont pas reçu, c'est que là, c'est la Poste qui a pas fait son travail, et donc dans ce cas-là, qui me contacte, en rappelant leur nom et leurs coordonnées, et à l'époque où ils ont, le mois où ils ont acheté, souscrit au livre, mais théoriquement, ça a été envoyé depuis fin mai.
Alors moi, je peux dire, parce que je l'ai pas lu, parce que c'est un gros pavé, ça fait 350 pages, et c'est 350 pages d'une énorme densité. C'est bourré d'informations, c'est passionnant, il y a des choses tout à fait nouvelles, que j'ignorais complètement. Mais c'est un travail formidable que vous avez fait, ça représente vraiment, on sent qu'il y a des années de boulot derrière ça.
Voilà, des années d'archivage, et donc, mais même la rédaction du livre, ça a été du 16 heures par jour pendant 2 ans.
Quel est, à votre avis, de quoi êtes-vous le plus fier là-dedans? Quelle est la révélation que vous faites qui vous paraît la plus valorisante professionnellement?
Il y en a plusieurs, à vrai dire, il y en a plusieurs. Celle dont je suis le plus fier, ça a été lorsque j'ai démonté complètement tous les mouvements féministes. Je montre à quelle origine ils sont liés, qui sont les personnes qui sont derrière, et je note certains paradoxes assez amusants. C'est quand même très amusant quand on se prétend les garants de la protection et de la dignité de la femme de se faire financer par le lobby de la pornographie. C'est quand même assez...
Oui, c'est à la fois paradoxal et tout à fait normal.
Tout à fait normal, oui. Ouais. D'ailleurs, j'explique pourquoi. Et certaines je suis assez content de certains scoops et de certaines révélations des personnalités politiques qui se prétendent de droite.
Au plus haut niveau.
Au
plus haut niveau de l'État, comme on dit.
Et des révélations de même métal sur les personnes, l'esprit politique qui inspire les personnages susdits.
Alors, à la lumière d'événements récents, et notamment de l'affaire du trotskisme de Jospin, il faut lire votre bouquin, parce qu'il y a aussi beaucoup de révélations, non pas sur l'affaire Jospin, mais autour
de l'affaire Jospin.
De l'affaire Jospin.
Jospin n'est pas le seul.
Il s'en faut de beaucoup.
Et le Parti Socialiste n'a pas le monopole des anciens trotskistes. Loin de là.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. À commencer par le RPR. Il n'était pas trotskiste, l'ancien maire du 19e. Il était maoïste, lui.
Maoïste.
C'était une espèce de...
Sans aller à l'UDF, il y a quelques beaux prototypes d'anciens militants d'extrême gauche.
Oui. Moi, je voudrais bien voir ce que ça donne quand il rencontre Longuet et Madeleine.
Rien du tout. Je pense notamment à un individu emblématique de l'UDF qui s'est fait arrêter par les policiers en mai 68 parce qu'il insulte envers les forces de l'ordre qui traitait de SS, ce qui est assez drôle parce que c'est pas tellement les opinions de la famille. Bon, c'était un homme qui voulait faire barrage au Front National. Comme il faut pas parler de persil à la veuve d'un perroquet ni perler de corde dans la maison d'un pendu, je crois que c'était vraiment la dernière personne sur la Côte d'Azur à pouvoir prononcer le mot barrage.
C'est-à-dire que... Oui, d'accord, on s'est compris. Je dois dire que l'expression « il faut pas parler de persil à la veuve d'un perroquet », je la connaissais pas, mais celle-là, on va la réutiliser. Merci Henri. Alors, il en reste quand même quelques-uns.
Oui, il en reste quelques-uns. Il en reste actuellement à peu près 300 exemplaires survivants du tirage. Donc, si vous voulez commander, il faut le faire quand même assez rapidement avant épuisement du stock.
Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message sur Internet en disant, il savait pas, on sait pas tout. Il m'a dit, dépêchez-vous de le commander avant qu'il soit interdit. C'est pas vous, je précise. Vous avez un fan sur Internet qui bombarde de messages en disant c'est le livre bombe, il appelle ça la bombe Fersan. C'est pas quelqu'un de votre entourage?
Absolument pas.
Moi non plus.
C'est pas vous, Henri.
J'étais d'ailleurs même pas au courant.
C'est très rigolo.
Ça risque pas d'être moi parce que j'ai pas Internet.
C'est un amateur c'est plutôt quelqu'un qui intervient sur des listes royalistes et notamment sur une liste que j'aime bien qui s'appelle Vexilla Régis. Et il a envoyé des messages sur Vexilla Régis en disant
donc aux membres de cette liste, lisez ce bouquin, le livre Bombe de Fersan, et alors il insiste, il dit il faut absolument lire avant qu'il soit interdit, il doit, à moins que ce soit quelqu'un qui...
Je voudrais quand même avoir connaissance des messages, donc s'il y a quelqu'un qui voulait avoir la gentillesse de me les envoyer, ce serait gentil.
Je les ai dans ma boîte, je vous les enverrai. Alors, ça s'appelle donc L'imposture antiraciste, c'est vendu...
199 francs.
Et ça les vaut vraiment, hein. C'est pas... Là, pour une fois, je dois dire que c'est pas de l'argent jeté par les fenêtres. Enfin, pour une fois, non. C'est vraiment pas de l'argent jeté par les fenêtres. Et on peut se le procurer donc en envoyant un chèque de 199 francs,
voilà, aux publications Henri de Fersan, boîte postale 18, 63 670, Le Sandre.
Le Sandre. Merci Henri. Ça serait bien que vous reveniez de temps en temps à l'émission, parce que vous avez apporté au cours de cette émission plusieurs fois des lumières ou des informations qui nous ont aidés à comprendre. Alors vous voyez, je vous transmets le message de quelqu'un qui n'a pas reçu.
Oui. Ah ben en plus c'est quelqu'un qui n'a pas reçu, et ça je suis assez formel, c'est une personne à qui je l'ai envoyé ça. Bon, mais vu l'adresse qu'il met, ça m'étonne
qu'à moitié
qu'il ne l'ait pas reçu. Oui, donc j'ai lui renvoyé ça.
Dans le 18e arrondissement de Paris, rue de la Goutte d'Or, c'est un peu risqué. Mais alors, envoyez-le sans signe extérieur d'appartenance.
Extérieur, très bien.
Et ne marquez pas Vitrolles en Provence. Merci Henri, merci mon cher Daniel de m'avoir sous-traité un petit...
C'est peu de choses ce soir.
Tu trouveras un petit billet comme d'habitude dans ta boîte aux lettres. Bonjour Cécilia, comment allez-vous?
Bonsoir, ça va bien.
Vous êtes venue avec vos fleurs?
Oui, comme d'habitude.
C'est bien. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à la semaine prochaine. Que Dieu nous garde.